On a tous dans la vie un hobby.
Un quoi ?
Un hobby, une passion si tu préfères.
Bah oui, je préfère parce que c'est le nom de l'émission. Et on met un S parce qu'il y a autant de passions que d'hommes, ou presque.
Ce qui est sûr, c'est qu'on les partage ensemble jusqu'à 21h sur Indestar.
Hey, salut, bienvenue sur Indestar. C'est la grande soirée du jeudi soir avec passion de 20h30 à 21h. Et après, vous avez PK Avenger jusqu'à 23h minimum. Salut Joachim.
Salut Thierry, comment tu vas ?
Eh bah écoute, ça va. Et alors, on va commencer par annoncer
ce soir,
quoi ?
Un artiste, comme on l'avait annoncé la semaine dernière, si vous étiez présent. Comme tous les jeudis, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, donc passion de 20h30 à 21h. Et ce soir, comme on l'avait dit la semaine dernière, on reçoit un artiste de qualité, je pense.
Bah oui, parce qu'il s'appelle Thierry quand même,
oui,
on ne sait pas dire. Mais...
Ça va, l'ego, oui, un peu. Et surtout parce que.
Ah non, on n'est pas égalité, on est 2-1 là ce soir.
Ah, super. Et comme on l'avait annoncé la semaine dernière, c'est un artiste qui travaille également avec des planches, comme Martine, sauf qu'il les travaille pas différemment.
Mais à d'autres dessins, si je puis me permettre.
Allez. Alors, du coup, bonsoir l'invité de ce soir, du coup, qui a été spoil, c'est Thierry. Bonsoir Thierry.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Comment allez-vous ?
Très bien.
Eh bien parfait.
Et ça te fait quoi de t'appeler Thierry ?
Ah bah ça me va bien.
Bah oui. Et notre fête c'est le 1er juillet, rappelez-vous.
Voilà. Bon bah c'est fait, on passe à autre chose, on fait une émission sur les Thierry.
Oh bah écoute, on peut la faire tous les deux si tu veux. Toi tu fais la technique ?
Ouais, on va faire la technique, hein. T'as bien raison. Et du coup, Thierry, que faites-vous dans la vie ?
Dessinateur.
Dessinateur de quoi ?
Dessinateur de presse et de bande dessinée.
D'accord, donc c'est votre passion, vous faites depuis très longtemps ?
Oui, depuis 90, on va
ça
dire,
fait 30 ans. La première BD donc, que vous aviez terminée à peu près en 88, vous l'avez publiée en 90, hein, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, pour le Salon d'Angoulême en janvier 90.
Mais ce qui est intéressant dans le parcours de notre Thierry, qui s'appelle, donc, je peux donner votre nom peut-être ?
Oui,
oui, bah oui. Donc, il s'appelle Thierry Jollet, pour ceux qui connaissent. Malheureusement, donc, comme on l'a dit assez régulièrement dans la préparation de cette émission, c'est que quand il y a un dessinateur qui fait des dessins, on reconnaît le dessin, mais on n'apprend jamais qui est.
Alors, c'est surtout qu'en fait, on voit l'œuvre où on découvre les planches, etc. Mais avant d'avoir mémorisé le nom et peut-être d'avoir vu aussi une photo de vous ou de vous avoir rencontré, ça c'est autre chose. Ça vous permet de faire les courses un peu tranquille. mais en fait, s'il y a un moment où on peut vous voir, c'est si on vient vous rencontrer sur un salon, ce que nous avons fait.
C'est ça. Voilà. Mais bon, on en reviendra un peu plus tard dans l'émission. On peut aussi noter que le monsieur Thierry Jollet a également deux autres passions.
Oui, et alors monsieur Thierry Jollet, vous nous avez confié que vous aviez deux rêves dans la vie. Et en fait, je vais inverser un peu parce que le premier rêve, ce dont j'ai envie de parler, c'est que vous aviez le rêve de faire de la radio. Et que vous en avez fait un petit peu comme nous sommes dans un préfabriqué. Et vous avez fait dans...
Dans une caravane.
Dans une caravane.
C'est génial. Quelle anecdote.
C'était... Ça remonte à quelques années.
Oui.
Tout ça.
C'était une radio libre, 84. Je crois.
Oui, c'était parmi les premières radios libres qui existaient.
D'accord.
Et alors, ce qui est marrant, c'est que vous parliez déjà, en fait, de ce qui est devenu votre métier passion. Vous parliez de BD.
Oui, parce que j'étais un grand lecteur de bande dessinée. Et avec un copain, on avait fait une émission qui se chargeait de parler. Enfin, nous, on faisait la promotion des nouveautés qui sortaient en librairie et de ce qu'on aimait.
Voilà. Et pour avoir accès à ces nouveautés, vous étiez associé à un libraire.
Vous aviez
qui
un
vous
ami
prêtait.
Qui était libraire, qui vous refilait, enfin qui vous prêtait généreusement les dernières actualités.
Oui, voilà. On s'était associé à deux libraires tour à tour. Et qui nous prêtaient les nouveautés. Ensuite, on a eu aussi des services de presse. Certaines maisons d'édition nous envoyaient des nouveautés, pas tout ce qui sortait. Il y avait beaucoup moins de nouveautés aussi, il faut dire, à l'époque, on complétait avec les libraires.
Okay. Voilà. Plus exactement, vous avez fait, il me semble, deux radios, hein, vous aviez précisé.
Oui, Radio Choisis Loisirs, donc, qui était dans la cour du château de la Montrolle, et puis ensuite... Radio Mégatour.
Alors ça c'était dans les années 84.
Ça vous fait quoi de voir que nous, par exemple, nous débutions là dans un préfa un peu jeune.
Bah oui, mais vous en sortez très bien, je trouve. Eh ben, écoute, et en plus de ça, la technique a changé parce qu'on était encore. Moi, j'étais à la fois aux platines et derrière le micro et.
Vous deviez tout faire.
Et,
il y avait les platines disques encore, quoi.
C'est ça.
On mettait les disques.
Et du coup, Monsieur Jollet a également une seconde passion. Pour les films.
Alors oui, vous aimez bien le film noir, hein, si je me rappelle bien, les films noirs.
Alors qu'est-ce que c'est le film noir ? Parce que moi, personnellement, j'ai eu un doute au départ, pour être franc. J'ai pas forcément cette culture. Les films noirs, c'est quoi exactement ?
Alors les films noirs, ce qu'on appelait les films noirs, essentiellement, ce sont des films américains qui sont sortis, on va dire, après-guerre. Mais ça a commencé un peu avant je parle de la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 30 et surtout 40 et 50. Ce sont des films qui évoquaient des destins tragiques d'Américains, bon, essentiellement, mais ça racontait surtout des histoires de personnages qui, sortant de la guerre, revenaient, n'avaient plus de boulot, leur femme était partie, ils avaient trahi, devenaient des gangsters, enfin, tombaient dans un milieu
interlope. C'était des histoires sombres, quoi.
Voilà.
Et voilà. C'était sombre dans plusieurs niveaux, j'irais, puisque c'était aussi en noir et blanc. Hein,
Oui. Il n'y avait pas encore les couleurs à l'époque.
Et en fait, dans vos deux rêves, vous nous aviez dit, moi je rêvais aussi de faire du cinéma. Et je suis venu petit à petit à faire le dessin animé, la BD, etc. Mais vos deux rêves, c'était de faire aussi le cinéma. Et le cinéma, en fait, vous nous avez raconté quand vous avez fait des études à la fac, hein, en première année, alors c'était en économie, je crois, il me semble, vous aviez un cours de cinéma qui prenait pas beaucoup de temps, mais en fait que vous adoriez.
C'était en lettres modernes. Ah oui,
en lettres modernes.
J'adorais, oui. C'était Monsieur Mottet qui était un spécialiste aussi de cinéma. Il avait écrit plusieurs livres et j'adorais parce qu'on découvrait ou on redécouvrait des classiques de Hitchcock, Wells, Fritz Lang. Cinéma que j'aimais bien.
Et avant de partir bien en détail, donc sur tout le parcours massif et rempli,
oui, parce que vous avez fait énormément de choses.
Et si on faisait un petit retour sur les origines de la BD comme chaque semaine?
Oui, alors
d'abord, quelles sont les origines de la BD? Alors, qu'est-ce que la BD?
Alors oui, déjà peut-être s'interroger sur ce que c'est que la BD, parce qu'on se dit dans la BD il y a du dessin, mais il n'y a pas que du dessin, hein, et littérature narrative, on raconte une histoire et puis c'est monté en séquence. Donc pour avoir la BD, il faut tenir compte de ces trois ingrédients. Donc on ne va pas remonter, c'est-à-dire à la préhistoire, les dessins qu'on retrouve dans les grottes, etc. C'est pas tout à fait de la BD. Les images d'Épinal, c'est pas encore tout à fait de la séquence. Bon, donc on peut s'interroger sur plein de choses. Alors il faut distinguer ce qui s'est passé en Europe de ce qui s'est passé en Chine. On n'évolue pas de la même manière,
hein,
mais après il y aurait plein de choses à dire, on va pas forcément le faire. Mais j'ai trouvé, alors je sais pas si la personne qui a dit ça prenait parti, mais ça serait une invention suisse. Est-ce que 1827, Rodolphe Töpffer, Les Amours de Monsieur Vieuxbois, ça vous dit? Est-ce que...
Oui, c'est la référence que l'on donne généralement
comme première.
Oui, une date de naissance un petit peu fictive, parce que la bande dessinée aussi est apparue un peu avant. On a vu des illustrations pleines pages où il y avait plusieurs actions qui se déroulaient, mais sans case. On va dire que lui, d'accord, a donné peut-être une modernité au langage, ouais, de la bande dessinée.
Il voulait appeler ça de la littérature en estampe.
Voilà.
Le fait que c'est de la gravure à la base. Ouais. Des images sous les yeux où on voit donc des personnages évoluer, et puis on a un petit texte juste en dessous. Voilà, puis après ça s'est propagé, hein, dans le monde, dans l'histoire, etc., avec éventuellement un support satirique, se moquer de la bourgeoisie, bon bref, il y a plein de choses, jusqu'à l'évolution moderne, Bécassine, Tintin, et moi je sais que quand vous étiez enfant, vous avez découvert ces BD qui marchaient bien, comme Tintin par exemple.
Justement, c'est là où je voulais en venir, les origines de la BD sont plus ou moins tracées, même si on peut, difficile d'en parler en quelques lignes, en quelques mots, mais si on reparle de vos origines à vous, quand vous étiez enfant, vous nous aviez confessé que vos sources d'inspiration, c'était des personnes comme par exemple Maigret, Agatha Christie ou donc Tintin, et même Valérian, voire Jules Verne, enfin plein de choses.
Et Valérian, pour moi, c'est particulièrement intéressant puisque c'est une référence aujourd'hui. Hein. On cite Valérian quand on fait de la BD ou quand on fait de la science-fiction. Hein, donc Valérian, ça a plus de 50 ans.
Et donc ça vous parle ?
69, oui. Oui, parce que c'est la première bande dessinée de science-fiction moderne, on va dire, qui a été créée en France. Hein. Il y en avait avant, il y avait Pelos qui avait fait Futuropolis, hein, mais ça restait très, très daté. Et c'est vrai que Valérian m'a passionné...
Pendant très longtemps.
Alors Valérian, un voyage intersidéral à travers le temps, découverte de monstres...
Voyageur spatio-temporel.
Spatio-temporel, voilà.
Et alors, moi, je pourrais vous proposer un petit jeu pour retracer un peu votre parcours. C'est que je vais vous citer des personnalités ou des personnes de votre entourage qui vous ont marqué et qui ont été des points stratégiques, chronologiquement parlant, pour votre avancée dans votre parcours. Alors, par exemple, vous avez fait, avant tout, déjà, vous avez fait vos premiers pas donc dans la BD en faisant des articles de BD et les actualités, comme on disait tout à l'heure, dans un anecdote poche. Puis après, est sorti votre premier album, donc en 1990, à Angoulême. Et ensuite, donc du coup, un certain Edgar Pierre Jacob est un élément important dans votre parcours. Pourquoi ? Qui est-ce ?
Alors, c'est un auteur belge qui est décédé, le créateur de Blake et Mortimer, donc je l'ai découvert en tant que lecteur et j'ai adoré. Et en fait, chronologiquement, c'est lui qui m'a mis le pied un peu à l'étrier de la bande dessinée, puisque lorsque je suis sorti du service militaire, j'étais à Blois, et donc j'ai été contacté par des étudiantes qui voulaient monter une exposition. Ouais. Et j'ai exposé 2-3 dessins, dont un hommage à Edgar Pierre Jacobs, qui m'a porté chance quelque part, puisque ça m'a permis donc par la suite de pouvoir faire mon premier album.
C'est génial. Ensuite, deuxième petite personnalité, un certain François Truffaut.
Oui, parce que c'est grâce
à... C'est un grand monsieur, là, encore.
Alors oui, c'est un cinéaste. J'aime beaucoup son cinéma, mais c'est à travers ses deux livres, il en a fait plusieurs, il a fait évidemment des
oui,
films,
bien sûr.
Mais à travers Les Films de ma vie, qui était un recueil de chroniques, de critiques, enfin en tout cas, de chroniques autour du cinéma et autour des films qu'il aimait bien.
Ouais.
Et le gros livre donc, d'interview sur Alfred Hitchcock, c'est à travers ces deux livres que j'ai compris, ou en tout cas que j'ai vu comment on pouvait fabriquer un scénario.
D'accord.
Parce que vous êtes autodidacte, hein, donc vous avez appris des choses au fur et à mesure.
Oui, parce que là, faire un scénario, pour moi, c'est très mystérieux. Moi, ce qui m'a, si vous voulez, mis le pied à l'étrier, ce qui m'a donné envie de faire de la bande dessinée, c'est avant tout le fait de raconter des histoires.
Oui.
Et la bande dessinée, elle est née dans la presse, parce que c'était avant tout un récit feuilletonesque. Et ce que j'avais envie, c'était de tenir en haleine le lecteur, comme l'a fait Hergé, comme ouais. le faisait. Donc,
et vous avez soulevé un problème, Christian, là, vous nous en aviez parlé, c'est que on découpait la BD en petits morceaux qu'on mettait dans les journaux, dans les magazines, et que quand on fait disparaître un certain nombre de publications, on fait disparaître aussi la promotion de la bande dessinée.
La disparition des journaux, c'est effectivement dramatique, parce que ça permettait à pas mal de jeunes de débuter, de progresser très vite, puisque le travail était publié dans l'immédiat, et effectivement de se faire un nom, et c'est une promotion effectivement pour des auteurs et pour des personnages. Beaucoup de personnages ont été lancés grâce, Valérian notamment, grâce au pouvoir et à la force et Tintin aussi, grâce à la force de la presse. S'il n'y avait pas eu un engouement de la presse, il n'y aurait pas eu une seconde histoire de Valérian, une troisième, une série, comme pour Tintin.
Et donner envie à beaucoup de gens de suivre, hein. Quand on en a un petit morceau tous les jours, on a envie de voir la suite, donc on va chercher le journal.
Un peu
lendemain.
Comme les séries Netflix aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et vous, vous travaillez encore pour la presse. Hein. Là, vous collaborez avec la NR.
Je dessine pour la Nouvelle République, mais là, c'est plus du dessin de presse où je réagis, enfin, je fais un dessin humoristique par rapport à des problèmes, des litiges pour des banques.
Vous n'êtes pas dans la série.
Non, c'est autre chose.
Et donc de lire et de vous instruire de vous-même donc de manière autodidacte avec les deux albums de François Truffaut, ça vous a permis de pouvoir lancer votre second album, du coup.
Alors bien, oui, bien des années après, ça m'a permis. Le premier album m'a ouvert les portes du dessin animé. Et pendant que quand je faisais du dessin animé, je travaillais en studio. J'ai eu l'opportunité de faire un autre album des histoires humoristiques autour de la banlieue.
D'accord.
Et puis, ce n'est que bien plus tard que je suis revenu à la bande dessinée.
D'accord.
Un passe-temps, une affection, une passion. Jusqu'à 21h, votre passion s'exprime sur Indestar.
Indestar, 20h52, vous êtes toujours dans l'émission Passion et nous allons tout à l'heure donner le relais à Peck Avenger. Vous pouvez nous retrouver sur indestar.fr, vous pouvez nous écouter sur indestar.fr et vous avez accès au podcast de toutes les émissions, la nôtre, mais aussi toutes celles de la radio.
Du reste de la semaine et du reste du programme. Et effectivement, est disponible sur quasiment toutes les plateformes, en tout cas les plus connues, Deezer.
Au moins une vingtaine.
C'est ça, au moins une vingtaine, voire plus. On s'avoisine même, je pense, pas loin des 25 à l'heure d'aujourd'hui. Donc vraiment, on est disponible partout, n'hésitez pas. Ne perdons pas de temps, partons tout de suite avec le héros de la semaine. Comme tous les jeudis, je vous présente une action qui a été faite partout dans le monde, peu importe, et qui est charitable. Aujourd'hui, on va se diriger du coup vers les bandes dessinées, parce que c'est le thème de la soirée. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, en janvier 2018, a été publiée une BD qui s'appelle « La BD qui fait du bien ». Qui a été orchestré, on va dire, qui a été fait en commun par 40 auteurs donc de bande dessinée, bien évidemment. Ils se sont mobilisés autour d'un projet avec tendresse et humour au profil de l'association Imagine for Margot. C'est une association qui lutte contre le cancer aux enfants. Et tout simplement, la BD qui fait du bien, c'est un livre pour se sentir plus fort, un livre pour penser à autre chose et qu'on soit malade ou pas.
Voilà, et ça n'est pas uniquement destiné aux enfants, c'est-à-dire que tout le monde peut s'y retrouver.
Bien sûr.
Vous avez plein de chapitres avec les titres qui vous disent, eh ben, en cas où vous retrouvez d'avoir un peu peur, en cas machin truc, et ça vous remet bien. Et en plus, à un prix très accessible, ça a été vendu 10 euros, je trouve, même un peu moins.
Aujourd'hui, l'assaut,
beaucoup de stars ont rejoint l'assaut, c'est très sympa. Allez voir, vous trouvez c'est facilement ça. Sur internet.
Et parmi tous les auteurs de bandes dessinées qui se sont mobilisés, parmi les 40, on peut retrouver encore, notamment Zep, donc le dessinateur de Titeuf, et Lewis Trondheim, je crois que je le prononce bien.
Trondheim.
Et c'est le dessinateur, donc le chat, je crois, c'est ça ?
Non, Lapineau. Oui, enfin, c'est lui qui a fait, à l'époque où il était devenu le président du jury du Festival d'Angoulême, et il avait fait le chat qui est devenu la mascotte et la récompense qui reste.
Génial. Il y a encore tout plein d'acteurs, d'auteurs, pardon, je confonds le mot, mais peu importe. Tout plein d'auteurs, je vous laisse checker la liste, et c'est une action et qui est.
Et Olivier Supio, notamment, que je connais bien.
Oui, un de vos amis personnels. Ami,
voilà, et il est possible, donc, pour cet assaut de faire des dons. On peut acheter la PD, mais on peut aussi faire des dons pour aider la recherche contre les cancers qui attaquent les enfants.
Oui,
merci
et
d'avance.
Même tous les autres cancers, bien évidemment. Mais les enfants aussi. Et en parlant d'amis personnels, ça me fait une transition toute trouvée. Vous aviez un ami personnel que vous avez appelé suite à un festival, suite à un salon à Dieppe. Donc pour un certain projet de, je dirais juste le mot magique, Agatha Christie.
Oui, voilà, à Dieppe, je m'étais retrouvé à dédicacer un album collectif et à côté de moi, il y avait un dessinateur qui venait de sortir un album donc chez un éditeur qui s'appelait EP, donc Proust à l'époque. Et j'ai téléphoné à mon ami avec lequel je défendais énormément de projets qui n'avaient pas abouti et qui travaillait chez ce même éditeur. Et quand je lui ai téléphoné, j'avais mon dossier qui était tout prêt et je lui ai demandé comment ça se passait chez cet éditeur. Et lui, il m'a demandé, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que ça ne te dirait pas de faire un Agatha Christie ? Je postule justement pour ça.
Donc, d'une pierre deux coups.
Ça s'est fait. Et du coup, on a sorti deux adaptations.
Deux albums. Alors, je crois que vous avez sorti La Maison du Péril et.
En 2009,
Voilà. Et je cite le deuxième en dernier parce que.
C'est
je crois
le troisième.
oui, non, pas pour ça en vrai, mais parce que je crois que celui-là vous apportez un peu plus à cœur. C'est Les Vacances d'Hercule Poirot.
Oui, parce que j'ai, avec l'accord de Didier Calaguillot, qui était mon scénariste, j'avais pas réécrit le scénario parce qu'il était écrit, mais réagencé. Et puis. Puis il est sorti, il a eu un accueil formidable.
Et je crois que même avant même de l'éditer, c'est un livre qui vous tenait particulièrement à cœur, il me semble.
Oui, j'aimais beaucoup cet album, effectivement. Le côté lieu clos, alors, c'est qui est fréquent chez Agatha Christie, ça se passe sur une île qui existe vraiment. Et j'avais beaucoup aimé le
Eh bien, vous avez eu beaucoup de chance de pouvoir éditer. Je pense que vous faites partie des rares auteurs qui ont eu la chance de pouvoir éditer en version BD une adaptation des aventures d'Agatha Christie, c'est cool.
Et vous aurez plus de faire aussi Maigret, si je me rappelle bien.
Oui,
ça aurait été quelque chose que vous auriez aimé
adapter
faire.
Adapter Maigret en BD, oui, ça c'est quelque chose.
Après, on ne sait jamais ce que se passera demain. Ça a été
beaucoup fait. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Vous nous aviez dit que vous aimiez bien les ambiances. Vous parliez de lieux clos.
C'est ça qui vous attire le plus dans le dessin.
Vous aimez bien la couleur, notamment le noir. Vous aimez bien les ambiances.
Tout ce qui est thriller, quoi.
Les atmosphères.
J'aime beaucoup les ambiances, oui. Il y en a dans Maigret, chez Simenon, il y en a beaucoup. Des ambiances de lieux clos, ce que j'aimais bien aussi chez Gaston Leroux. Et j'aime bien.
Voilà. Vous nous aviez parlé d'une ambiance, notamment une scène avec Rouletabille dans la chambre jaune. Là, vous vous rappelez
quand ils vont déguster
une omelette.
Oui, cette scène.
Qu'on a l'impression que ça va sentir l'omelette.
Tellement c'est bien décrit et tout.
Ah oui, ça donne faim, rien que de lire la scène et on voit bien la pièce dans laquelle ils sont. Donc ça, c'est... Moi, quand je lis un bouquin, quand je ressens vraiment des images, ça me donne envie vraiment de dessiner.
Et ça veut dire que c'est bien écrit.
Je vois un noir et blanc, ma fille est foutue.
Oui.
Eh bien, on pourrait en parler pendant des heures de tout ce que vous avez fait dans votre vie, de toutes les personnes importantes que vous avez rencontrées. Mais parlons des actualités, parce que malheureusement, l'heure tourne. Alors, quelles sont vos actualités ? Je crois qu'il y a la BD de Blois, du coup, qui est la plus récente.
Beaucoup de choses en 2019.
Alors, il y a eu 5 nouveautés, 6 avec donc une histoire autobiographique chez Egoscopic, qui s'appelle Introspection 4 planches, que j'ai sorti. Mais chez Petit à Petit, il y a eu 5 albums. Alors, Le Blois, l'album sur Angers. Il y a eu l'histoire des 24 heures du Mans, il y a eu l'histoire, le guide des châteaux de la Loire et l'histoire des Jeux Olympiques.
C'est ça.
Donc le château de la Loire, vous avez ouvert, je crois, c'est vous au début. Et Blois, c'est vous à la fin sur la résistance.
Le dernier qui est sorti, je crois, c'est l'histoire des Jeux Olympiques. J'ai illustré le chapitre.
Et votre actualité permanente, si je peux dire ça comme ça, c'est que vous animez des ateliers de BD à l'Arak.
Alors oui, à l'Arac.
L'Arac, du coup, c'est à Tours.
Ouais, Saint-Cyr-sur-Loire.
Saint-Cyr-sur-Loire. Donc dans l'Indre-et-Loire, dans le 37.
Donc un atelier de bande dessinée et qui marche bien tous les mercredis. Et un autre atelier de bande dessinée qui
se trouve à Zérigo.
Organisé par Famille
Rurale. Dans Famille Rurale, voilà, c'est ça.
Et donc parmi tous les projets futurs à venir que vous nous aviez parlé, il y avait par exemple des projets pour des nouveaux albums, donc historiques ou même pour les enfants.
Alors, il y a encore des nouveautés chez Petit à Petit. Il y a encore deux participations à des collectifs. Histoire du cinéma, où j'illustre donc Citizen Kane. Et puis, l'histoire du Tour de France, où là, j'illustre l'histoire du vieux Gaulois, le premier porteur du maillot jaune.
Et du coup, qui était-ce?
Christophe. Alors, je ne sais plus son
nom. Ah, la colle, je vous ai dit.
J'ai plus son nom en mémoire, là.
Pas de souci. Eh bien, malheureusement, le temps défile à une vitesse beaucoup trop désagréable, je dirais. On va se terminer, comme d'habitude, chaque jeudi d'émission Passion avec une citation d'Agatha Christie cette semaine. Elle a dit elle-même: les mots ne sont jamais que l'enveloppe des idées. Est-ce que tu as une meilleure citation à fournir?
Ah, moi j'ai une autre citation, c'est pas meilleur. C'est un livre, c'est comme une bande dessinée, sauf que les images se trouvent entre les lignes. Vous me disiez même plutôt qu'entre les lignes.
Entre les cases.
Entre les cases. Eh oui.
Bien vu.
Qu'est-ce qu'on appelle l'intertextualité?
Voilà, l'intertextualité. Effectivement.
Et du coup, si on veut en savoir plus sur Thierry Jollet, où est-ce qu'on vous trouve?
Alors, éventuellement sur Internet, j'ai une page Facebook, hein, donc, et puis éventuellement sur un blog que j'ai un peu abandonné, qui s'appelle L'Horloge Parlante.
Que vous avez arrêté en 2012. Mais alors, il est très intéressant parce que vous parlez un petit peu de votre vie de dessinateur, et puis vous mettez des extraits de planches qui ne sont pas terminées, on voit avancer votre travail. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. On apprend beaucoup sur vous et sur votre travail.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si on cherche sur Facebook à votre nom, Thierry Jollet, c'est assez cool, vous répondez assez rapidement. Vous êtes accessible.
Oui, bah je fais en sorte d'être réactif.
C'est cool si quelqu'un, un producteur, veut vous produire, vous propose un projet.
Spielberg, si tu m'entends.
Ça serait génial, ça serait le rêve ultime.
Mais oui, proposez-lui un projet autobiographique. Moi, j'aimerais bien qu'il parle de tous les gens qu'il a rencontrés. Si vous pouvez nous faire une BD, dessiner un petit peu tout ça,
et
ça serait génial.
Et on le fera revenir du coup pour en parler.
Ouais, bah, dessinez-nous, hein, d'ailleurs. Voilà, dessinez-nous. Allons-y. D'ailleurs, moi, j'ai demandé une dédicace. J'espère que je vais la voir dans l'album Blois.
Et bien, du coup, l'émission Passion de cette semaine est malheureusement terminée. On vous dit à la semaine prochaine, donc jeudi, même heure.
Un nouvel invité à deviner.
C'est ça, un invité un peu particulier parce que ça sera la Saint-Valentin.
Ah oui.
Et donc
mais il s'appelle pas Valentin.
Et il s'appelle pas Valentin, mais ça sera lié quand même un petit
revenir,
peu.
Revenir, je viens de faire un dessin pour la Saint-Valentin.
Allez, si vous voulez, vous êtes invité.
Ah oui, non, mais c'est pas la Saint-Thierry la semaine prochaine. Reviens le 1er juillet.
Bon, et bien du coup, à la semaine prochaine pour la Saint-Valentin, venez la fêter avec nous, vous serez bien accompagnés. Donc jeudi, 20h30, 21h.
Ça sera une émission délicieuse.
C'est ça, votre nouvelle aventure hebdomadaire depuis 2020. À bientôt sur Indestar.
Vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.